לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Buenas noches, informa Jonathan Meta para acá en Radio Reca en español, en esta actualización especial de las 9 de la noche. Un hombre se habría prendido fuego en la ciudad de Nueva York, esto es en los Estados Unidos de Norteamérica, afuera del tribunal donde se lleva a cabo la audiencia para seleccionar a los 6 jurados alternativos en el juicio al expresidente Donald Trump. Hace poco tiempo se informó que el tribunal anunció la selección de los jurados y también aquellos suplentes en el caso en el cual se le atribuye a Trump la intención de haber silenciado a la estrella porno Stormy Daniels. La defensa y la fiscalía en el juicio contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han seleccionado a los 6 jurados. Este fue el final del proceso de selección del jurado para el primer juicio penal en Estados Unidos contra un expresidente. Por otro lado, una mujer de unos 40 años murió en un accidente automovilístico. Esto fue un accidente que se llevó a cabo entre 2 vehículos en la carretera 463 en Judea y Samaria. Un hombre de 30 años resultó gravemente herido, un niño de 12 años resultó levemente herido y otras 2 personas resultaron levemente heridas. Los equipos de Maguen David Adom evacuaron a los heridos hospitales de la zona. El anuncio de Maguen David Adom indicó que todas las víctimas del accidente son palestinos. Se detectaron 5 lanzamientos tras una alarma que fue activada. Esto fue en la zona de Sderot. Un cohete fue interceptado y el resto cayó en zonas abiertas de la Franja de Gaza y no llegó a cruzar a territorio israelí. Partes de un interceptor cayeron en la calle de Sderot, pero no se registraron ni víctimas ni daños. Un camionero residente de Kfar Yona fue detenido para ser interrogado bajo sospecha de estar implicado en un accidente de tránsito que se produjo en la Ruta 1, en el que murieron 2 hombres de unos 50 años. Según el comunicado policial, el conductor chocó con un coche de policía cerca de un cruce. También se informó que no existe conexión entre el accidente y la protesta que tuvo lugar anteriormente en esa misma vía. 2 hombres de unos 50 años murieron en este accidente automovilístico. Esto sucedió en la autopista 1. Los equipos de Maguen David Adom los declararon muertos en el lugar y evacuaron a una persona levemente herida al hospital Shamira Safarofé en Beer Yaakov. El canal de televisión de Arabia Saudita Al-Adad informó que el ataque en Irán atribuido a Israel se habría llevado a cabo con 3 aviones F-35. Hezbollah, la organización terrorista que se encuentra en el norte de Israel, atacando el norte de Israel desde el sur del Líbano, asumió la responsabilidad de 3 andanadas de cohetes a Israel, que según afirma, se llevaron a cabo a las 5:10 de la tarde de hoy, 5:50 de la tarde de hoy y 6:50 de la tarde de hoy. Según la organización, los disparos se produjeron contra puestos militares, soldados y supuestos equipos de espionaje. Se trata de la 5ª responsabilidad que se atribuye esta organización desde esta mañana. Un alto funcionario estadounidense le dijo a la cadena ABC que durante el ataque en Irán atribuido a Israel, aviones de combate lanzaron 3 misiles contra un sitio de radar de defensa aérea. Según el informe, el sitio forma parte de la defensa de la instalación nuclear de Natanz allí en Irán. Aviones de la Fuerza Aérea atacaron recientemente infraestructuras militares de la organización terrorista Hezbollah, esto en la zona de Al-Mansouri y Eitarón, que es en el sur del Líbano. Así lo informó el portavoz del ejército, Daniel Agari, quien informó que anteriormente se detectaron 3 lanzamientos que cruzaron hacia territorio israelí y que las fuerzas de defensa de Israel atacaron los focos del fuego de artillería. Hasta aquí informó Jonathan Mehta para acá en Radio Reca en español. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana a las 9 de la noche con una nueva actualización sobre lo que esté sucediendo en Israel. Hasta tanto, Shabbat Shalom desde Jerusalén.
Il est 21h. Vous êtes sur Kan, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Bonsoir Myriam Shermer, merci de nous avoir rejoints ce soir.
Bonsoir.
Alors Myriam, on va commencer par parler évidemment du sujet le plus brûlant dans cette actualité, à savoir la frappe iranienne et la question de savoir s'il va y avoir ou non une réponse, une réaction de la part d'Israël. Alors il y a eu quelques déroulements ces derniers jours, notamment on parlerait en tout cas de la réaction des États-Unis qui proposerait à Israël d'autoriser l'opération à Rafah en échange de quoi Israël serait modéré dans ses réactions face à l'Iran. Il s'agit là de rumeurs relayées par des responsables politiques égyptiens, on n'en sait pas plus que ça. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les semaines qui viennent ?
Oui, des spéculations, bien sûr. Alors, bien entendu, je vous parle de l'aspect politique hein, et pas de l'aspect sécuritaire. Effectivement, je pense que, en fait, ce qui a vraiment changé cette semaine avec cette attaque dramatique du régime islamique sur Israël en début de semaine, c'est que, après des mois et des mois où Israël était en mauvaise posture face à l'administration américaine, qui prenait de plus en plus ses distances avec le gouvernement israélien, pour des raisons à la fois électoralistes et tout simplement parce que au bout de 6 mois, le monde occidental avait un peu plus de mal à accepter cette guerre virulente dans la bande de Gaza. Et donc, il y a eu un retournement de situation, effectivement, avec cette épreuve de force, à la fois avec une prouesse technologique spectaculaire du côté israélien et puis cette coalition internationale et surtout moyen-orientale avec la Jordanie, l'Arabie Saoudite qui ont montré de quel côté elle se situait et donc avec une nouvelle légitimité pour Israël à ce moment-là qui se repositionne mieux qu'elle ne l'a été depuis tous ces derniers mois face aux Américains et de manière générale face aux pays occidentaux. À partir de ce moment-là, toute la question a été de savoir comment utiliser ce levier, d'accord, tout en sachant que nous savons que le soir même de l'attaque, certains ministres au sein du cabinet étaient en faveur de répliquer immédiatement face à Téhéran et qu'il a été jugé plus prudent d'attendre et donc de voir quelle était la conjoncture face aux Américains. Donc maintenant, effectivement, comme vous dites, on est au stade des spéculations et des rumeurs. Est-ce que oui ou non, il y aurait une attaque ? A priori, il y aurait consensus au sein du gouvernement israélien sur une réplique nécessaire face à Téhéran, en jugeant que le simple fait d'avoir évité que ces missiles ne tombent sur le sol israélien, ce n'était pas suffisant en termes de représailles et de dissuasion, évidemment. Et donc, il y a consensus sur la nécessité de mener une attaque. Où et quand, telle est la question. Et effectivement, on parle d'un échange de bons procédés, si vous voulez, avec la nécessité pour Israël de mener son opération à Rafah, donc la dernière ville dans le sud de la bande de Gaza, dans laquelle Tsahal n'a pas encore pénétré, où on sait pertinemment que beaucoup de terroristes de Hamas se cachent au jour d'aujourd'hui, et qui a constitué un point de contentieux particulièrement important entre le Premier ministre Netanyahou et le président Biden, qui voulait absolument éviter cette opération et qui maintenant serait a priori un petit peu mieux disposé. Là encore, il s'agit de savoir où et comment certains dans la communauté de renseignement militaire notamment nous disent que ça va prendre du temps, voire plusieurs semaines, parce qu'il va falloir évacuer une population civile très importante pour mener cette opération à bien, et qu'effectivement, on rentre dans la semaine de la fête de Pessah, donc la Pâque juive en Israël, et qu'après, on arrive vraiment sur la période de mai-juin, et on s'approche de plus en plus de l'échéance américaine, donc à voir quelle sera la conjoncture internationale d'ici quelques semaines.
Et alors, concernant l'attaque sur l'Iran, enfin la réponse israélienne à l'attaque qu'on a eue ce samedi, et vous dites qu'il y a un consensus au sein du gouvernement, tous les partis sont d'accord de la même manière pour répondre, et de la même manière d'ailleurs ?
Alors, encore une fois, ce qui a été assez intéressant à constater, c'est qu'on a appris par des fuites, c'est que très souvent, ce qui se passe à huis clos dans le gouvernement israélien est ensuite fuité vers l'extérieur. Donc, on a appris que, contrairement à ce qu'on peut penser peut-être, c'est que le ministre Gantz et le ministre Eisenkot, donc deux anciens généraux, hein, il faut le souligner, qui étaient tout à fait en faveur d'une réplique immédiate sur Téhéran le soir même. Or, ça aurait été au contraire bloqué par Benjamin Netanyahou et d'autres acteurs du gouvernement à ce moment-là qui ont jugé plus prudent d'attendre d'avoir l'aval américain. Alors, ça, politiquement, Netanyahou n'aime pas du tout être considéré comme moins à droite que certains acteurs de son gouvernement, d'accord ? Donc, il a eu évidemment à cœur de montrer toute la semaine et de laisser entendre toute la semaine qu'il était tout à fait en faveur d'une réplique de représailles militaires, d'autant plus qu'effectivement, son aile droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, eux ne se sont pas privés de déclarations ouvertes en ce sens. Donc là aussi, toute la question va être comment Netanyahou va manœuvrer entre la nécessité de garder de conserver son image de droite, de ne pas paraître comme moins droitier que d'autres éléments dans son gouvernement, tout en obtenant l'aval des Américains, où là encore, rappelons-le, hein, les relations avec le président Biden ont été tendues tous ces derniers mois, et que je pense qu'il aura à cœur de ne pas forcément retourner aux mêmes tensions qu'on a eues toutes ces dernières semaines avant justement l'attaque iranienne.
Mmh. Alors passons à un sujet plus politique à l'intérieur de l'État d'Israël, non plus avec des ennemis extérieurs. Alors, on parle depuis plusieurs mois de l'engagement des ultra-orthodoxes dans l'armée israélienne. Et là, ça se précise. Les ministres du gouvernement ont publié hier un avis qui va contre la position de la conseillère juridique du gouvernement au sujet de l'exemption de services militaires des ultra-orthodoxes. Enfin, c'est-à-dire qu'elle, elle est pour que les ultra-orthodoxes soient engagés dans l'armée. Elle considère que ça n'est pas légal, cette exemption, juste pour une partie de la population. Le gouvernement souhaite de plus présenter un appel séparé devant la Cour suprême. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, alors, sans vouloir trop perdre nos auditeurs dans des détails un petit peu techniques, hein, de la politique israélienne, mais on va expliquer brièvement. Une des raisons, notamment, l'année dernière de la fameuse réforme judiciaire, hein, qui a très mal tourné pour le débat politique intérieur en Israël, c'était le constat fait depuis des années par beaucoup de politiciens israéliens, d'ailleurs pas forcément tous du même bord, que le travail face aux conseillers juridiques du gouvernement, donc il faut savoir qu'il y a un conseiller ou une conseillère juridique du gouvernement, mais que sous elle, il y a des conseillers juridiques dans tous les ministères, d'accord, qui sont des fonctionnaires, et qui représentent, qui sont a priori des juristes employés par les différents ministres et par le gouvernement pour donner un avis juridique sur la légalité de tel ou tel texte. Sauf que ça a toujours été un petit peu plus compliqué que ça, parce que le rôle du conseiller juridique du gouvernement, il est plus important. Il est aussi, en fait, il détient une partie des responsabilités de ce qu'en France on appelle le procureur de la République, notamment celle de mettre en examen différents ministres, voire le premier ministre. Donc, on considère parfois qu'il y a une question de conflit d'intérêts, d'accord, entre ces deux positions-là. Et puis, qui plus est, c'est aussi censé représenter le. En fait, c'est l'avocat du gouvernement, d'accord. Quand, si par exemple, la Cour de suprême en Israël est censée légiférer sur un cas où elle a été pétitionnée, d'accord, par rapport à l'État, le gouvernement va envoyer son avocat. Et en l'occurrence, c'est la conseillère juridique du gouvernement. Vous voyez, donc c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'elle est à la fois conseillère, effectivement, Mais en même temps, il doit représenter les intérêts de son client, en l'occurrence l'État ou le gouvernement. D'accord ? Et donc, quand on dit que le gouvernement va présenter un appel séparé, c'est pourquoi ? C'est parce que la conseillère juridique du gouvernement a le pouvoir de dire qu'elle considère qu'elle n'a pas à défendre la position du gouvernement face à la Cour. Vous voyez ? Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça crée toujours des tensions politiques, ce genre de choses, parce que d'aucuns considèrent que ce n'est pas le rôle de la conseillère de décider qu'en fait, si c'est l'avocate du gouvernement, c'est l'avocate du gouvernement et elle représente le gouvernement, quelles que soient ses positions, vous voyez. Et d'autres considèrent qu'en tant que haute fonctionnaire, c'est aussi son rôle d'avoir un avis sur les différentes actions du gouvernement. Donc déjà là, il y a souvent un motif de contentieux qui était notamment vraiment une des raisons importantes derrière la réforme proposée l'année dernière, qui est de dire que très clairement, souvent les politiciens ont l'impression que les juristes leur mettent des bâtons dans les roues, d'accord. Donc ça, c'est pour toute la question procédurière derrière votre question. Et ensuite, plus concrètement, effectivement, on en a déjà parlé ensemble, hein, mais la question de l'enrôlement des ultra-orthodoxes, c'est un véritable serpent de mer dans la politique israélienne qui n'a pas été réglé depuis plus de 20 ans. Or, il se trouve que là, on est face à une conjoncture particulière où d'un côté, on a les événements du 7 octobre qui mettent en évidence la nécessité de changer de direction et le besoin vraiment d'enrôler davantage de jeunes tous les ans, d'accord ? Alors que jusqu'à présent, on était plutôt dans un objectif d'enrôler moins, mais d'enrôler mieux, d'avoir un État, d'avoir une armée plus technologique, d'accord ? Et donc, pas forcément d'enrôler tout le monde, mais d'enrôler les plus qualifiés, etc. Cette optique a changé. Désormais, on veut vraiment enrôler beaucoup de monde pour avoir beaucoup de combattants au sol. Une fois qu'on a dit ça, comment on le fait ? En sachant que ça fait depuis 20 ans qu'il y a une espèce de patate chaude de loi sur comment on enrôle les ultra-orthodoxes, sachant que pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, une majorité d'entre eux, c'est une ligne rouge parce qu'ils considèrent qu'en allant à l'armée, ils vont perdre leurs valeurs qui font qu'ils mènent une vie séparée, ils vont perdre leurs valeurs religieuses, ils vont être compromis d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de pratique religieuse, d'un point de vue de valeurs, et qu'ensuite, leur vie va inexorablement changer, notamment pour ensuite fonder un foyer, etc. Et leur famille va être moins bien considérée pour ensuite nouer des alliances, conclure des mariages, etc. Et quand un frère va aller à l'armée, ça va aussi impacter le reste de sa fratrie. Vous voyez, donc on est vraiment face à un problème à la fois politique, mais à la fois sociologique, en fait, d'une minorité qui a besoin de se positionner sur son rôle au sein d'Israël, d'autant qu'elle grandit démographiquement de façon très importante.
Mais alors maintenant, concrètement, il y a eu des mesures qui ont été prises par à la suite de l'avis de la conseillère juridique du gouvernement, puisque depuis les fonds qui sont versés aux yeshivot, aux écoles talmudiques, ont été coupés, on a fermé les robinets.
Là, je vous ai brossé tout le tableau, et en fait, on est arrivé à une espèce de conjoncture très bizarre, c'est qu'en plus du 7 octobre, on est arrivé à la fin de toutes les prolongations que l'État a toujours demandé pour refuser de trancher, en fait, dans cette loi.
Oui, tout à fait par hasard, d'ailleurs. Enfin, c'est arrivé à ce moment-là.
Tout à fait par hasard, voilà. C'est le hasard du calendrier. Hein. Ça aurait pu tout à fait arriver dans une autre année, une année normale. Effectivement, avec la Cour suprême en disant, OK, nous, on statue que c'est anticonstitutionnel, d'accord, de continuer avec cette exemption. Et donc, par conséquent, les budgets et les financements qui vont au Yeshivot, donc les centres d'études talmudiques, qui enrôlent des jeunes qui ne font pas leur devoir militaire, leur service militaire, et donc à partir de ce moment-là, on va mettre un veto à tous ces budgets d'État. D'accord ? Et bien évidemment, c'est une situation très compliquée pour Netanyahou politiquement, puisque les ultra-orthodoxes, traditionnellement, sont ses collaborateurs dans sa coalition depuis des années. Et puis, il faut dire les choses, hein. C'est-à-dire que, oui, Netanyahou a toujours été très efficace dans sa gestion de ses partenaires de coalition ultra-orthodoxe en leur promettant mon émerveil quand il le fallait. Mais en attendant, on sait pertinemment qu'aucune coalition politique israélienne ne tient vraiment le coup sur la durée sans les partis ultra-orthodoxes. Donc aujourd'hui, de facto, il est très difficile pour n'importe quel parti, même quand il s'agit de la gauche ou du centre-gauche, de gouverner sans eux. Et donc, de facto, les ultra-orthodoxes restent des faiseurs de coalition. Et donc, ils ont la main mise sur ces budgets qu'il sera très, très difficile de leur refuser sur le long terme. D'accord ? Et donc, Netanyahou va toujours trouver une alternative, une façon différente de leur faire passer ces budgets.
Une affaire à suivre donc. Myriam Schermer, merci beaucoup pour votre intervention.
Et je vous en prie, bonsoir.
Au revoir. Bonsoir Olivier Rafovitch.
Bonsoir Yael.
Heureuse de vous retrouver pour votre résumé de la semaine au niveau sécuritaire, stratégique et militaire. Une semaine qui a été bien évidemment chargée encore plus que les autres semaines avec cette fameuse attaque iranienne. On va y revenir. Je voudrais tout d'abord avoir vos commentaires sur cet événement qui a eu lieu il y a à peu près 2 heures. Des missiles qui sont tirés depuis le sud Liban qui s'écrasent directement sur un centre communautaire du village arabe de Arav al-Aramcheh.
D'abord, c'est un événement très grave. Vous allez me dire pourquoi il est grave et plus grave que les autres, parce que d'abord il y a beaucoup de blessés, on parle de 18 blessés, dont un dans un état très grave. Alors nous parlons, un ou deux d'ailleurs, on n'a pas encore.
Oui, on a une personne en état grave et 2 grièvement blessés aussi, mais là, le premier cas est entre la vie et la mort. Ouais.
Mais ce qui est clair, c'est que le Hezbollah de nouveau attaque des villes et des villages israéliens le long de la frontière. Là, un village arabe, Arab al-Aramcheh, près de Mahalot, dans ce qu'on appelle la région ouest de la frontière entre Israël et le Liban. Et beaucoup de blessés par certainement un drone suicide, certainement de fabrication iranienne, qui s'écrase sur ce matnas, ce centre communautaire, ce centre de loisirs, enfin, en général les centres qui existent dans toutes les villages israéliens, où il y a des activités sportives, scolaires ou parascolaires. Et donc cette attaque a lieu de nouveau parmi les autres qui ont lieu tous les jours, et cela fait des victimes, des blessés graves. Et ceci montre que le Hezbollah continue à attaquer Israël et que si le Hezbollah n'arrête pas cette suite d'attaques qui empêche les Israéliens de revenir habiter chez eux, qui empêche Israël d'avoir une situation normale au nord, eh bien, s'il n'y a pas d'option diplomatique et politique qui marche, c'est-à-dire qui fait que le Hezbollah revient au nord de l'Italie du fleuve, selon la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité 1701, eh bien, il n'est pas impossible que l'option militaire soit envisageable. En tout cas, situation très sérieuse, très grave, qui montre que le nord d'Israël est toujours sous les attaques constantes du Hezbollah.
Elle se multiplie, j'ai le sentiment que autant les capacités, ou peut-être je me trompe, hein, c'est une question que je vous pose, j'ai le sentiment en tout cas que les capacités stratégiques au niveau des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza sont beaucoup réduites, mais que au niveau du Hezbollah au sud de Liban, au contraire, les attaques s'intensifient.
Alors d'abord, vous parlez de l'attaque qui a lieu dimanche soir, durant l'attaque iranienne, où 100 missiles du Hezbollah ont touché Israël, le nord, également la région du Golan, puis d'autres missiles depuis dimanche soir. Mmh. Le Hezbollah, effectivement, d'un côté, intensifie ses frappes contre Israël. Israël a également répondu par l'élimination ciblée de plusieurs chefs de Radouane, qui est la branche, on va dire, élite, entre guillemets, du Hezbollah contre Israël. Et tout ça en lui fait qu'il y a effectivement une espèce de jointure entre ce que a fait l'Iran, est-ce que menace l'Iran de Téhéran contre Israël et l'activité terroriste du Hezbollah, qui quand même, il faut le dire, n'a pas tout fait ce que peut-être les Iraniens auraient aimé que le Hezbollah fasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des tirs au-delà, des tirs gravement sérieux, mais qui n'ont pas dépassé que nous connaissons depuis le début du conflit avec eux, depuis le 8 octobre. Mais nous sommes dans une situation toujours extrêmement sensible et tendue et surprise. Voilà.
Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs que l'attaque n'ait pas été plus significative? Est-ce que c'est une réussite de la défense aérienne israélienne et évidemment du partenariat avec les États-Unis et l'Angleterre, notamment, hein, en tout cas au niveau militaire, je parle. Ou alors est-ce que vous pensez que l'Iran, comme ils essayent de le dire, c'est peut-être a fait ça exprès pour ne pas justement enclencher une escalade supplémentaire?
Vous parlez de l'Iran ou du Hezbollah?
Non, là, je parle de l'Iran, vous parlez de... Ah, pardon, excusez-moi, on parle de deux attaques différentes, bien évidemment, ok. Donc le Hezbollah, oui, le Hezbollah.
Le Hezbollah est rentré dans la guerre contre Israël en voulant soutenir le Hamas, et donc il le fait au détriment de l'intérêt du Liban et des Libanais. Il le fait également en connexion, en coordination avec l'Iran. C'est l'Iran qui arme, qui finance et qui dirige le Hezbollah, avec évidemment Nasrallah qui est à la tête du Hezbollah, mais Nasrallah écoute également Téhéran et les chefs de l'Iran dans l'action anti-israélienne. Non, ce qu'on peut dire, c'est que le Hezbollah s'est effectivement joint à l'attaque iranienne contre Israël, puisqu'ils ont attaqué avec 100 missiles, mais disons qu'ils auraient pu faire plus, je crois, du Hezbollah. Oui. Alors, est-ce que le Hezbollah cache son jeu? Est-ce que le Hezbollah essaie de masquer quelque chose? Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'attaque contre le village de Arab el-Aramché dans la zone ouest de la Galilée montre qu'il y a un danger gravissime du Hezbollah et que cette situation est intolérable insupportable.
Alors, est-ce que vous envisagez, je vous pose la question à peu près chaque semaine, et je sais très bien que vous allez me répondre et vous aurez raison, que vous n'êtes pas prophète, mais comment est-ce que vous envisagez la suite des événements? Comme vous le disiez en début d'émission, les Israéliens ne veulent pas rentrer chez eux tant que la menace n'est pas écartée. Est-ce qu'on va devoir en arriver à une incursion terrestre au Liban? Une attaque plus sévère de la part d'Israël ferait l'affaire, selon vous?
Encore une fois, on ne peut pas parler de ce qui va se passer. On peut parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que près de 100 000 Israéliens dans le nord d'Israël ne peuvent pas aller chez eux, vivre chez eux normalement, à cause des attaques et des menaces du Hezbollah. Ce site est impardonnable et par rapport au Hezbollah, on ne peut pas leur. Et surtout, est insupportable, pardon, si on sait le terme, insupportable. Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de solution politico-diplomatique avec les Américains et les Français, entre autres, eh bien, l'option militaire reste une option envisageable, évidemment. Tout cela dépend de la position du gouvernement israélien. Mais il est clair qu'Israël ne peut pas, sur du long terme, continuer à avoir cette situation dramatique où Kiryat Shmona, Arab el-Aramché, Metula, les kibboutz de Hamita, Manara dans la région Est sont bombardés quotidiennement, les poulaillers sont détruits, des milliers et des milliers de poules sont mortes. Alors vous allez me dire, c'est un épiphénomène? Non, parce que...
Ah non, c'est très grave.
Non, je dis que ce n'est pas du tout un épiphénomène, c'est très grave, parce qu'en fait, c'est l'économie également qui est atteinte, c'est toute ce qu'on appelle... Le tissu socio-économique, l'écosystème, si vous voulez, du nord d'Israël. Les gens ne peuvent pas aller se promener, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'hôtellerie. Enfin, c'est une catastrophe.
Bien sûr.
Et cette catastrophe-là, aujourd'hui, elle est le résultant du Hezbollah qui continue à menacer Israël et à attaquer Israël avec des missiles et surtout son orgueil.
C'est un orgueil, oui, c'est revendique avec fierté, bien évidemment. Voilà. Et ça, de plus en plus, on constate ce phénomène. Et bien au contraire, ils veulent montrer aussi leur soutien quasiment inconditionnel envers Téhéran. Alors là, on est dans l'attente. J'avais vraiment une question qui me brûlait les lèvres cette semaine et je serais ravie de vous la poser. Quel a été l'intérêt de l'Iran d'envoyer donc une quantité aussi importante énorme de drones et de missiles, en sachant que s'ils avaient utilisé les proxys qu'ils ont dans la région, ça aurait semé beaucoup plus la panique. Tandis que on a reçu tous, comme tout le pays a reçu, les missiles sont en route, ils sont déjà partis, ils ont encore à peu près un quart d'heure de vol. On en est donc. Personne n'a été réellement abasourdi de recevoir cette quantité de missiles. Est-ce que ça valait le coup de faire ça en sachant que le délai de vol, même s'il peut être rapide pour les missiles balistiques, est-ce que ça valait vraiment le coup d'envoyer ces missiles depuis le territoire iranien?
Je veux dire une chose que les gens peut-être ne comprennent pas ou ne voient pas. Supposons un instant qu'Israël n'a pas ce parapluie anti-missile ou anti-aérien que nous possédons. Ces 330 missiles qui arrivent, et drones et missiles de croisière qui arrivent sur Israël, vont faire des milliers de morts. Et les dégâts, même s'ils viennent de très loin, même s'il y a un temps de vol important, nous sommes dans une situation d'attaque avec la détermination, la volonté de faire des dégâts, de faire des morts. Le fait que nous ayons ce parapluie anti-missile avec Dôme de Fer, avec la fronde de David, avec les missiles anti-missile Arrow, et évidemment notre aviation extraordinaire avec les aviations de pays alliés qui nous ont aidés dans cette action d'interception au pluriel, fait que, comme vous savez, 99% des objets ennemis ont été détruits. Mais regardez ce qui se passe en Ukraine. Dans d'autres pays, lorsqu'il n'y a pas de protection aérienne de qualité, c'est des centaines de morts, voire des milliers de morts, destruction de villes. Et là, c'était absolument un autre scénario auquel on aurait pu rencontrer. Donc, ne soyons pas dans la sous-estimation de ce qui est passé.
Mais ils savent très bien qu'on a une défense aérienne. Je veux dire,
oui, mais les Iraniens, dans cette attaque-là, ont décidé de baisser les masques et de ne plus utiliser seulement leur proxy pour attaquer Israël, ce qu'ils font depuis des années et des années. Et ceci est un changement radical de paradigme. D'ailleurs, nous voyons depuis dimanche que les Iraniens continuent à menacer Israël avec des menaces très très graves, très très sérieuses. Et Israël, nous écoutons ces menaces, nous les prenons également sérieusement. Et le gouvernement israélien, avec l'armée israélienne, font les, ce qu'on appelle les estimations, les assessments, les prises en compte de tout ce qui se passe, pour ensuite, oui ou non, décider de la suite. Mais l'attaque iranienne est un changement de paradigme du conflit entre l'État d'Israël et l'Iran.
Et la riposte israélienne est aussi un changement de paradigme, selon vous ? La riposte que l'on attend, hein ?
Vous savez, depuis 2-3 jours, on me pose ces questions à moi et à d'autres, évidemment, sur la riposte, et c'est classique. Ma réponse est très claire. Je ne veux en aucun cas aujourd'hui aborder ce sujet, ni avec vous, ni avec personne d'autre. C'est une décision qui appartient seulement, alors nous parlons, à la prérogative du gouvernement israélien, et Tzal et les forces de sécurité seront...
Bon, j'ai compris le message et je respecte tout à fait, je le dis pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous êtes vous-même colonel de réserve et il y a vraisemblablement des choses que vous n'êtes pas en mesure de nous dévoiler, c'est tout à votre honneur bien évidemment, donc j'arrête de poser cette question. J'ai eu le droit d'essayer, mais tenons les pouces en tout cas pour Tzal. Je voudrais qu'on termine cet entretien avec la situation à Gaza. L'attaque, l'incursion à Rafah, à Rafa, et évidemment le sort de nos otages à cette avant-veille de Pessah.
Olivier. Nous parlons de la guerre contre le Hamas n'est pas terminée. Et vous entendez,
n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, bien sûr.
La guerre contre Hamas n'est pas terminée. Il y a encore des opérations actuellement dans la région des, ce qu'on appelle des Mahanot Hamikaz, les centres de la bande de Gaza, avec la région de Nusayrat.
Oui.
Des opérations qui sont reliées à la division 162 qui opère dans le centre de la bande de Gaza. Et donc, cette guerre n'est pas terminée. Le Hamas n'est pas encore totalement détruit ni démantelé. Donc, nous continuons. Il y a encore la zone de Rafah, comme vous savez. Ce qui se passe, c'est qu'en parallèle de cela, nous avons augmenté de manière sensible l'entrée de camions humanitaires et le dossier otage, du retour des otages, reste la priorité absolue d'Israël. Et vous savez qu'il y a eu des discussions, qu'il y a encore des discussions avec ce qu'on appelle des intermédiaires, avec l'Égypte, avec le Qatar, avec
les médiateurs. Ouais.
Tout à fait. On peut mettre la frotte en hébreu, tout à fait, les médiateurs. Et alors où nous parlons, je ne peux malheureusement pas donner de nouvelles.
Les Israéliens ont le sentiment, et peut-être ont-ils raison, que pas forcément tout est mis en œuvre comme il le faut. Parce que, voilà, à 194 jours du début de la guerre et de leur prise d'otages, on a le sentiment que s'ils avaient dû revenir, ils seraient déjà revenus maintenant.
Non, il ne faut pas dire ça, parce que la preuve, nous sommes face, nous n'oublions pas, à un groupe terroriste d'une cruauté absolue. Il joue avec la vie des otages, avec la vie des familles d'otages, puisqu'il met des pressions psychologiques horribles. Je vous rappelle ces films ou ces vidéos qui étaient sortis de temps en temps, avec des horribles images, des informations. Il y a ici un jeu cruel, diabolique de la part du Hamas au sujet des otages. Donc, on peut évidemment demander à l'État d'Israël des choses. On peut faire abstraction de l'ennemi qui est en face de nous, qui est celui qui a pris les otages, ne l'oublions pas, qui a kidnappé des femmes, des enfants, des vieillards, qui a tué 1200 personnes de manière horrible, qui a violé, qui a brûlé. Donc, tout ça réuni, c'est que, évidemment, que la population israélienne se tourne vers son gouvernement et vers son armée, c'est normal, puisque nous sommes l'armée d'Israël et le gouvernement israélien. Mais en face de nous, il y a des gens qui ont kidnappé et qui utilisent la vie des otages pour mener une autre guerre, une guerre psychologique, une guerre dans la guerre, une guerre pour obtenir des choses. Et en prenant également en compte que le Hamas ment, que le Hamas est tout sauf fiable, donc il faut extrêmement attention. Lorsque le Hamas dit quelque chose, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit, et est-ce qu'il est vraiment derrière ce qu'il dit. Donc tout se réunit, c'est que effectivement, c'est un dossier très sensible, qui est géré, pas par hasard, par le Mossad, par le Shabak, et par le général Salanon, qui est un ancien également des services de sécurité, et qui est quelqu'un de brillantissime. Ses équipes, avec d'autres personnes, gèrent un dossier qui est d'une sensibilité absolue et d'une difficulté.
Ben oui.
Puisqu'en face de nous, c'est le Hamas, et le Hamas, c'est tout sauf des gens sympathiques.
Mais bien sûr.
Ils jouent avec la vie des otages, avec la vie des Israéliens. Et on aurait tous aimé qu'avec des phares, tous les otages reviennent à la maison.
Oui.
Et alors, nous parlons, ce n'est pas encore le cas.
Ça va être très difficile hein, de célébrer cette fête de Pessah, cette fête de la liberté, en ayant toutes ces chaises vides. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'au moins, pour les civils israéliens, en tout cas, cette période passe le plus paisiblement possible. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, pour cette analyse. Et on vous retrouve la semaine prochaine sur Canon en français.
Merci beaucoup. Et à notre émission, je voudrais souhaiter vraiment un Chag Pessah Sameach, un Chag Pessah Kasher de Sameach pour tous les bénis Israël, en Israël et en dehors d'Israël, et souhaiter également, comme nous tous, nous le souhaitons, le retour de tous les otages à la maison, tous,
et plus rapidement.
Viennent le plus vite possible à la maison, les familles les attendent, tout Israël les attend, et Israël continuera à tout faire pour que les otages à la maison soient.
Olivier Rafovitch, merci beaucoup.
Merci.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute saison. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Oui, je tourne en rond.
va parler ce soir de cette attaque iranienne, de la riposte israélienne, des conséquences de tout cela sur le Moyen-Orient, avec le docteur Meir Masri, que j'ai le plaisir de retrouver enfin. Bonsoir docteur.
Bonsoir,
bonsoir docteur Meir Masri, très heureuse de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Je voudrais qu'on parle tout d'abord de la configuration du Moyen-Orient depuis cette attaque iranienne directe.
Bien, alors tout d'abord, il n'y a pas de nouvelle configuration du Moyen-Orient. C'est que juste que nous sommes revenus à l'état de géopolitique de la région d'avant le 7 octobre, c'est-à-dire que nous sommes entourés après tout d'États, ça veut dire d'entités politiques souveraines et soucieuses de leur souveraineté, qui se comportent en État. Nous avons vu immédiatement une collaboration impeccable de la part de l'ensemble des pays de la région. Même les pays sous domination iranienne ont quand même eu des positions assez nuancées. Je pense notamment à l'Irak, qui a appelé à la désescalade et qui a dit qu'il n'était pas intéressé à ce que son territoire ne fasse partie ou ne soit impacté par le conflit.
Ça, c'est à cause des relations avec les États-Unis ? Parce que ce n'est pas nos meilleurs alliés.
C'est parce que l'Irak est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que le Liban, et que la force et que le dispositif milicien mis en place par les Iraniens est beaucoup plus récent. Il est beaucoup moins enraciné dans le paysage politico-militaire irakien que ne l'est le Hezbollah au Liban, par exemple. Et donc l'État irakien a une marge de manœuvre un peu plus importante que celle dont dispose le gouvernement libanais. Voilà. Somme toute, il y a quand même les pays de la région ont réagi de manière étatique, notamment les pays où l'Iran n'exerce pas d'influence. L'Iran n'a pas manqué de menacer ces pays. Il aurait peut-être pu avoir l'intelligence d'éviter cela, parce que on voit bien, par exemple, un pays comme la Jordanie qui a totalement coopéré avec Israël. L'armée de l'air jordanienne, par ailleurs, aurait intercepté une dizaine. Ou plusieurs dizaines plutôt de projectiles iraniens, tout en laissant également son espace aérien à disposition de l'aviation de l'armée de l'air israélienne. L'Arabie saoudite a également laissé les alliés d'Israël agir en toute liberté dans son espace aérien pour intercepter donc les drones et missiles en provenance de la République islamique, mais aussi du Yémen. Donc on voit donc qu'il y a une attitude d'État, une attitude qui est totalement conforme à la logique étatique de la part des pays du Moyen-Orient. Et bien sûr, il y a un rôle très important qu'a joué les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, et la France également. C'est surtout les Américains qui ont fait comprendre qu'ils ne lâcheraient pas Israël et qu'ils seront là pour le soutenir et défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté qui a été violée de la manière la plus flagrante. Et puis Israël également a été victime d'un crime de guerre, parce que je signale ici que les missiles balistiques sont des missiles de très faible précision. D'ailleurs, nous en avons intercepté au-dessus de la Knesset, au-dessus de à quelques dizaines de mètres de hauteur de du Dôme du Rocher.
Oui, absolument. On a vu les images qui sont...
Je me demande si Israël n'avait pas intercepté ce missile. Est-ce que comme le monde musulman aurait condamné Israël ou l'Iran? Et puis enfin, je m'étonne des scènes de liesse qu'on a pu voir à la télévision en provenance de la ville d'Hébron, par exemple, et d'autres villes également de Cisjordanie, quand on sait que un nombre important de missiles, mais aussi de drones, ont été interceptés par le dispositif militaire israélien au-dessus de la Judée-Samarie.
Alors, vous parliez tout à l'heure du message clair des États-Unis, de Joe Biden, et on a vu les réactions des pays amis d'Israël. Vous nous avez parlé aussi il y a quelques instants de quelques réactions et de l'implication, de l'influence de certains pays du Golfe Persique. Quelque chose qui a retenu mon attention tout de même, et là, c'est pas du tout le même discours que lorsqu'il s'agit de la guerre avec Gaza. Là, Biden dit, la décision est entre les mains de Jérusalem. Et c'est Nous, on veut juste être informés de quand est-ce que ça va se passer pour que ce soit fait en collaboration avec nous, qu'on soit pas surpris de l'apprendre. Est-ce que vous pensez pas que c'est quelque chose d'assez nouveau comme message ?
C'est-à-dire que les Américains comprennent la nécessité pour Israël, je dis bien la nécessité, hein, ce n'est pas vraiment un choix, c'est absolument indispensable de réagir, de riposter. Tant, question de savoir comment, où et à quel moment. Faut-il le faire ? Ce n'est pas, plutôt pas
ça obligatoirement aussi on va en parler.
Le faire immédiatement. Alors, une fois qu'on a dit ça, les Américains ont quand même des intérêts dans la région, mais aussi dans les pays, donc notamment dans les pays du Golfe, mais pas que. Et ils n'ont pas envie que leurs intérêts soient menacés par les Iraniens. Les Iraniens ont très bien fait comprendre que si les Américains n'agissent pas de manière frontale ou ne participent pas à une action coercitive d'Israël en territoire iranien, eh bien, ils seront épargnés. Donc, c'est si simple que cela. Donc, pour moi, c'est un message de soutien de la part des Américains, de compréhension. Et qui indique quand même qu'il y a un minimum de coordination entre Jérusalem et Washington. Les Américains, de mon point de vue, bénissent une action coercitive en territoire iranien. Sinon, ils n'auraient jamais dit, vous demandez à Israël de les prévenir plus tôt et de dire qu'ils ne participeront pas, ce qui sous-entend qu'il est fort probable ou probable qu'une action de cette nature soit effectuée. Alors, pourquoi c'est important de réagir ? Tout d'abord parce que Une ligne nouvelle a été franchie. Pour la première fois, l'Iran a effectué des attaques en territoire israélien et l'a revendiqué de la manière la plus théâtrale qui soit, en avertissant plusieurs heures à l'avance. De toute façon, on l'aurait su parce que bon, ça prend du temps.
Ben c'est ça, c'est que c'est quelque part au niveau stratégique, à part faire beaucoup de bruit. Bah, on a eu le temps de mettre tout le monde dans les abris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça a pris 20 minutes pour venir, une demi-heure, parfois plus.
Oui, mais ça a été une démonstration de force qui vise notamment les sympathisants du régime iranien dans la région, puisque l'objectif de l'Iran n'est pas de combattre Israël. Le véritable objectif stratégique de long terme du régime issu de la révolution islamique d'Iran de 1979, c'est de pouvoir pénétrer en territoire sunnite, et notamment dans la région arabe, donc dans la région du Golfe, mais dans la région arabe moyen-orientale de manière plus globale. C'est l'objectif principal des Iraniens, qui se considèrent comme la principale puissance du monde musulman, comme le parrain de l'islam dans le monde, et donc qui se met là en concurrent et rival de l'Arabie saoudite, qui... en abritant les principaux lieux saints de l'islam et traditionnellement perçu comme le représentant de l'islam dans le monde. En plus, c'est le pays qui siège l'organisation de la conférence islamique. Donc le régime iranien a voulu là démontrer sa force, montrer qu'il a été capable, que c'est le seul pays du monde islamique et qui est en mesure de lancer des missiles et des drones sur Israël, quelque chose qui n'a jamais été fait depuis Saddam Hussein lors de la guerre de libération du Koweït. Néanmoins, l'Iran n'a pas, les Iraniens ne l'ont pas fait en réaction à l'offensive israélienne à Gaza, mais ils l'ont fait pour des raisons qui sont complètement internes au régime iranien, propre au régime iranien, à savoir venger donc la mort de miliciens iraniens en territoire syrien, donc dans une attaque qui a été attribuée à Israël.
Alors, qu'est-ce que vous pensez du moment choisi, enfin, qui se dessine, hein. On entend de Washington, par des médias étrangers, notamment Al Jazeera, et aussi New York Times, que la riposte israélienne peut être immédiate, c'est-à-dire d'un moment à l'autre. Est-ce que on perdrait de la légitimité à riposter dans plus longtemps, ou est-ce que vous pensez que le moment est choisi maintenant, alors qu'on est en pleine guerre avec Gaza et qu'on est évidemment en guerre avec le Hezbollah aussi? Qu'est-ce que vous pensez de cette... Je ne voudrais pas dire le mot timing, mais vous avez compris, oui, ce que je veux dire.
Alors, moi, je pense... Alors, tout d'abord, je pense qu'Israël a bien fait de ne pas réagir, de ne pas avoir réagi à chaud. Hein, parce qu'on sait que le
cabinet
de guerre a été divisé, que... Bon, ça n'est c'est plus un secret, ça a été dévoilé par la presse israélienne, par les médias israéliens, que deux membres du cabinet voulaient justement qu'Israël riposte durant même, alors même qu'on était en train de subir l'agression iranienne. Alors, d'abord, ça n'est pas nécessaire de réagir rapidement. Je pense que la menace est plus importante, est une sanction plus importante pour les Iraniens que son exécution. D'ailleurs, ça a été également le cas pour nous, puisque, en fin de compte, cette attente-là, c'est une sanction pour l'économie du pays, pour la vie de la nation. Et puis aussi pour les relations entre l'extérieur du pays. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément, dans l'obligation de réagir dans l'immédiat. Alors maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille le faire dans 2 ans, hein, ça n'aura pas tellement de sens. Mais je pense que oui, il faut effectivement profiter de ce regain de sympathie internationale qu'a provoqué l'agression iranienne. Et il faut dire cette sympathie qui manque à Israël depuis le mois d'octobre, qui s'était effritée au fur et à mesure donc qu'on avançait dans le temps. Alors que nous sommes en train de combattre le terrorisme dans la bande de Gaza au prix de nombreuses victimes. Alors, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense qu'Israël n'attaquera pas, la vengeance ne doit pas se faire sur les proxys de l'Iran.
Pour
la simple raison
qu'ils n'ont pas utilisé leurs proxys pour nous attaquer.
La vengeance, la riposte, ne doit pas se faire de cette manière-là, parce que cela limitera par la suite l'action d'Israël, puisque on va continuer à se battre contre les proxys de l'Iran. Donc il ne faut pas que ça ait l'air d'être une riposte, ce qui signifierait que par la suite, on ne pourra pas tellement le faire, puisque tant que l'Iran ne nous aura pas attaqué. Donc la guerre contre les proxys de l'Iran est une guerre qui est des plus légitimes, et elle ne doit pas être liée à l'agression iranienne. Nous avons été agressés par l'Iran, donc l'agression, la contre-attaque, la riposte doit se faire en territoire iranien. Et puis, enfin, je pense que la riposte ne devrait pas être trop importante, parce que l'objectif n'est pas de provoquer l'escalade, et non plus de réduire la sympathie dont bénéficie aujourd'hui Israël. Alors bien sûr, une action militaire de grande envergure dans l'objectif de détruire le programme nucléaire iranien ou de le retarder de manière très significative, voire même de provoquer la chute du régime, c'est quelque chose à laquelle je suis complètement favorable, mais qui doit se faire en coordination, en coopération totale avec les partenaires régionaux d'Israël et bien entendu avec les États-Unis, sans lesquels une opération de grande envergure ne peut avoir lieu, en tout cas avec des objectifs significatifs. Donc riposter, oui, ça doit se faire en territoire iranien, et la riposte doit être douloureuse mais limitée.
Docteur Meir Masri, merci encore pour cette analyse. C'est un plaisir de vous retrouver. À très bientôt sur les ondes de Canon France. Au revoir, docteur.
Capteur. Je t'aime comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des chalumeaux qui dévorent ta silhouette. Elle est belle, elle est svelte, soleil ardent sur l'asphalte. Putain de merde, rappelle-moi sur quel pied je danse. Comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des chalumeaux qui dévorent ta silhouette. Je l'emmène dans mon cabriolet, elle fait des sauts de cabriolet. Rappelle-moi sur quel pied je danse.
Je t'aime comme un allumé, j'ai le cœur à mille watts.